Bonjour à tous. Le préfet du Morbihan durcit le ton face au comportement de la jeunesse. Patrice Faure la juge inconsciente dans les bars et sur la plage malgré le risque sanitaire. À Quiberon, de nouvelles mesures sont envisagées. Il l'annonce sur France Inter. Dans ce contexte, des images ont choqué ce week-end. 12 000 personnes réunies dans les gradins du Puy du Fou. Nous avons joint le directeur du parc à thème pour avoir ses explications. Une semaine pour avouer, le principal suspect de l'incendie de la cathédrale de Nantes reconnaît les faits. Il est en prison depuis cette nuit. Nous ferons le point sur l'enquête dans ce journal. Nous analyserons également l'annonce de la Corée du Nord. Elle officialise son premier cas de Covid-19. La faute, dit-elle, à un fugitif revenu du Sud. Une version à nuancer. Dans cette édition encore, les difficultés de Donald Trump à 100 jours de la présidentielle américaine. Les arguments de la Pologne qui s'oppose à l'égalité homme-femme dans l'éducation des enfants. Et puis l'entraînement des coureurs cyclistes de l'équipe bretonne Arkea Samsic. Nous les suivons dans les Alpes, un col après l'autre. Le Tour de France se prépare.
France Inter.
Des jeunes réunis en nombre dans les bars, organisant des apéros sur les plages. Voilà le tableau ce week-end à Quiberon dans le Morbihan. Image impossible à regarder pour le préfet du département Patrice Faure. Il a déjà fermé hier soir une discothèque ouverte malgré l'interdiction. Et Patrice Faure n'a pas l'intention de s'arrêter là.
D'abord, je note une irresponsabilité de la jeunesse qui est en vacances ou qui réside ici avec des soirées festives dans des nombres très conséquents, ignorant le danger. Les chiffres des contaminations, de la contamination augmentent sur Quiberon. Donc nous avons fait un peu plus de 230 tests hier. Nous aurons le résultat entre ce soir et demain. Et en fonction de cela, eh bien, je prendrai d'autres mesures qui pourraient aller jusqu'à, comme dans la Mayenne, l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes en public. Deuxièmement, aussi de fermer les établissements dans lesquels on aurait détecté plusieurs cas de façon concomitante. Et enfin, éventuellement, j'espère ne pas en arriver là, mais s'il le faut, je le ferai, de fermer les bars à partir d'une heure, par exemple 19h. Je sais que ça va faire grincer des dents. Le maire s'apprête à prendre un arrêté municipal d'interdiction de la plage à partir d'une certaine heure, 19h probablement, puisque les jeunes, ça ne leur suffit pas d'aller se contaminer dans les bars, organisent des fêtes assez importantes sur la plage. Comme je l'ai dit il y a déjà une semaine maintenant, la saison estivale 2020 ne doit ressembler en rien à la saison estivale 2019.
Inquiétude et fermeté donc pour le préfet du Morbihan, interrogé pour France Inter par Cécilia Arbona. Une saison 2020 différente selon le préfet du Morbihan et pourtant un peu plus au sud en Vendée, la saison semble avoir repris comme si de rien n'était ou presque. Le Puy du Fou a accueilli avant-hier et hier pour sa réouverture 12 000 personnes dans les gradins pour son grand spectacle, la Ciné Cini. 12 000 personnes dans trois tribunes dans le parc à thème. Elles étaient masquées, séparées par du plexiglas, en trois groupes, mais assises côte à côte. Jouer avec les règles n'a pas plu, la polémique s'est enflammée, le parc finalement réduit sa jauge. Ce midi, le directeur du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, se défend.
Il n'y a aucune volonté de contourner quelques règlements que ce soit. Je comprends que vu de l'extérieur, ça puisse susciter des questions. Nous avons accueilli 3 fois 4 000 personnes à la Ciné-Cénie. C'est-à-dire que nous avions 3 jauges qui étaient toutes évidemment inférieures à 5 000 personnes. Cette situation respecte les textes. Maintenant, nous voyons que l'inquiétude grandit, que cela suscite des incompréhensions, ce que nous comprenons parfaitement. Donc, nous prenons la décision de n'ouvrir qu'une seule tribune de moins de 5 000 personnes plutôt que les 3 tribunes de 4 000 personnes dès notre prochaine représentation de la Ciné-Cénie, c'est-à-dire vendredi prochain. Et donc, je crois qu'il est important, effectivement, de faire un geste en montrant que nous entendons ces inquiétudes-là pour, là encore, la sérénité de nos futurs spectateurs, même si nous allons décevoir des milliers de spectateurs qui espéraient pouvoir venir à la Ciné-Cénie cette année et qui ne pourront pas venir compte tenu de cette réduction de jauge.
Nicolas de Villiers interrogé par Thibault Lefebvre. Il regrette les faits. Il se dit, selon son avocat, soulagé, apeuré, dépassé. L'homme soupçonné d'avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes le week-end dernier est en détention provisoire depuis cette nuit, mis en examen pour destruction et dégradation par incendie. Il s'agit en fait du principal suspect depuis le départ, un bénévole du diocèse âgé de 39 ans. Et il a donc avoué, Stéphane Père.
Des aveux, des regrets aux yeux des enquêteurs de la police judiciaire et du juge qui l'a mise en examen. L'application d'Emmanuel A, ce Rwandais au service du diocèse de Nantes depuis 4 ans, ne soulève désormais plus de doutes. Les trois départs de feux distincts, identifiés très tôt par les pompiers et la police scientifique, l'absence de traces d'effraction, étaient la signature évidente d'un incendie criminel. Plusieurs éléments ont dirigé l'attention des enquêteurs sur cet homme. Le fait bien sûr qu'il soit chargé de fermer la cathédrale la veille au soir de l'incendie. Mais aussi, un possible mal-être, une colère par rapport à l'évolution de sa situation administrative en tant que réfugié en France. Le matin de l'incendie, le bénévole aura envoyé un mail à ses collègues du diocèse pour se plaindre du non-renouvellement de son visa. Mais ce faisceau d'éléments ne suffit pas à prouver son rôle dans l'incendie lors de sa première garde à vue. La suite de l'enquête va donc continuer à sonder les motivations qui ont amené cet homme apprécié de sa communauté religieuse à tenter de détruire l'endroit qui avait motivé sa vie ces dernières années.
Une église prise pour cible, circonstances totalement différentes. Là, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. Le père Hamel était assassiné par 2 terroristes à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Aujourd'hui, un hommage lui est rendu dans l'église, une messe en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Procéder à des contrôles d'identité, fermer des établissements si nécessaire. Dans une tribune, 18 maires de droite demandent ce matin plus de pouvoir pour leur police municipale. Ils estiment qu'elle peut aider les services de l'État sur le terrain de façon plus efficace face à la violence. La maire de la ville de Nice hier a obtenu des garanties sur les moyens de ses forces de l'ordre, mais l'annonce n'a été que locale. Alors écoutez, le premier adjoint du maire de Nîmes qui a vu depuis le début de l'année, malgré le confinement, déjà 3 fusillades dans la ville. Dernière en date, c'était vendredi, 1 mort, 3 blessés. Cela fait des semaines que Julien Plantier alerte et n'en peut plus.
On est une ville sur laquelle il y a des faits qui sont inacceptables sur le territoire, notamment par rapport aux stupéfiants au règlement de compte, on le sait très bien. On est doté d'une police municipale qui fait le maximum, mais malheureusement, on est sur un domaine régalien de l'État. Nous, on est prêts à mettre en place un certain nombre d'expérimentations. Nous avons appris que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont proposé cet élargissement des compétences de la police municipale. Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des moyens humains, des moyens matériels pour lutter contre cette insécurité. Et on espère au moins avoir une réponse, parce que pour l'instant, on se sent complètement oublié. Il y a eu le temps des élections municipales en amont. Jean-Paul Fournier a été réélu pour un 4e mandat, et il attend, et l'ensemble de l'équipe municipale attend une réponse de l'État, et ça passerait, je pense, dans un premier temps, par une visite pour aller à la rencontre des habitants, aller à la rencontre des acteurs de notre ville et des quartiers. Aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des actes.
Voilà pour les demandes, l'appel de Julien Plantier, premier adjoint à la mairie de Nîmes. Il avait promis un plan de relance vert. Il avance ce matin les chiffres. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, promet 30 milliards d'euros pour la transition écologique. C'est 1/3 du plan de relance de la France. Et puis sachez que dans le même temps, on apprend aussi que la prime à la conversion automobile, elle sera revue à la baisse. À partir de la semaine prochaine, le 3 août, une diminution de 500 à 1500 euros en moyenne pour l'achat d'un véhicule neuf.
France Inter, le journal de 13h, Clara Lecoq-Réal.
En Corée du Nord, on est passé d'un brillant succès contre le virus à une alerte maximale. Pyongyang officialise aujourd'hui son premier cas suspect de Covid-19. Une ville dans le sud du pays est confinée. Bonjour Valérie Crovin.
Bonjour.
Pour expliquer ce premier cas, la Corée du Nord accuse un fugitif passé en Corée du Sud qui serait revenu illégalement et malade.
Oui, il serait rentré clandestinement en Corée du Nord le 19 juillet après avoir séjourné en Corée du Sud, précise l'agence de presse officielle nord-coréenne. Il aurait franchi illégalement la ligne de démarcation entre les deux Corées, ce qui est pourtant difficilement envisageable puisque c'est l'une des frontières les plus surveillées au monde. Un scénario qui paraît donc rocambolesque. Pyongyang avait jusqu'à présent soutenu mordicus qu'il n'y avait aucun cas de Covid sur son sol, ce dont on peut sérieusement douter, sachant que la Chine et la Corée du Nord partagent 1400 km de frontière, une frontière poreuse, ce qui aurait pu faciliter la transmission du virus. Pour éviter qu'il ne se propage, la Corée du Nord a fermé fin janvier ses frontières, dont celle avec la Chine, qui est son principal soutien économique. Le commerce en a pâti et bien sûr les 25 millions de Nord-Coréens qui souffraient déjà de fortes pénuries avant la crise. Alors en désignant la Corée du Sud, où les cas de coronavirus sont de nouveau en hausse, comme étant possiblement à l'origine de la contamination de son ressortissant, la Corée du Nord trouve en son voisin un coupable tout désigné, d'autant que les relations entre les deux pays se sont crispées en juin au sujet des tracts de propagande envoyés grâce à des ballons depuis le sud par des dissidents nord-coréens.
Merci beaucoup Valérie Krova pour l'analyse de cette annonce nord-coréenne. Roder sa communication, c'est aussi l'objectif de deux hommes en ce moment aux États-Unis. Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, discret mais visiblement convaincant, et Donald Trump, le président américain en difficulté. À 100 jours de l'élection, Donald Trump fait d'ailleurs quelques réajustements stratégiques, notamment face à la crise du coronavirus. C'est ce que nous explique Discours à l'appui, notre correspondant Loïc Loury.
La situation sanitaire va sans doute empirer avant de s'améliorer. La déclaration semble anodine. Pour Donald Trump, c'est un vrai changement de cap. Cette semaine, le président, très critiqué pour sa gestion de l'épidémie, a adopté un discours un peu plus conforme à sa fonction. Je dois protéger les Américains. Il n'y a rien de plus important pour ce pays que de garantir leur sécurité et leur santé, que ce soit contre le virus chinois ou la mafia radicale de gauche. Protéger les Américains du virus et contre la gauche radicale, c'est l'autre grand axe de sa campagne réaffirmée après la mort de George Floyd et le début d'un mouvement de contestation massif, parfois violent. « Je suis le président de la loi et de l'ordre », répète-t-il, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs en 2016. «
Death, destruction, terrorism. »
La mort, la destruction, le terrorisme et la faiblesse. Il ne peut y avoir de prospérité sans la loi et l'ordre. Une formule réchauffée pour un président sans programme qui compte d'abord sur sa base et sur une amélioration de la situation sanitaire, mais aussi sur les incertitudes d'un scrutin en temps de pandémie. Quant à savoir s'il en accepterait le résultat, je verrai, a-t-il dit dimanche dernier. New York, Loïc Loury, France Inter.
Donald Trump qui promet donc de rétablir l'ordre aux États-Unis. Quand des manifestants défilaient encore cette nuit contre les forces de l'ordre, justement contre leur violence, à Portland dans l'Oregon et maintenant à Austin dans le Texas, Louisville dans le Kentucky, à New York, Oakland, Los Angeles et à Seattle cette nuit également, parapluie contre gaz lacrymogène. 16 personnes ont été interpellées à Seattle. On ne connaît pas encore les circonstances de l'incident. À Berlin ce matin, une voiture a percuté un groupe de plusieurs personnes. Actuellement, il y a 7 blessés. Aucune preuve de motivation politique ou religieuse, indique pour le moment la police de la capitale allemande, qui penche pour un accident. Le conducteur de la voiture a été arrêté et placé en garde à vue. Un papa, une maman et chacun son rôle. Slogan que l'on pourrait entendre dans les couloirs du ministère de la Justice polonais. Varsovie souhaite sortir du traité européen sur les violences faites aux femmes. Ce texte demande aux écoles d'enseigner l'égalité entre les hommes et les femmes, sauf que, selon le gouvernement polonais, cela va à l'encontre des droits des parents. Une idéologie nuisible, dit le ministre, qui s'en explique, Damien Simonard.
Face aux critiques, le ministre de la Justice polonais contre-attaque. Si quelqu'un prétend que le retrait de la Convention d'Istanbul signifie la détérioration de la protection des femmes, c'est de la propagande scandaleuse et un mensonge, affirme Zbigniew Ziobro, pour qui le droit polonais est exemplaire en la matière. Lors de la ratification du traité par la Pologne en 2015 par la coalition centriste, Ziobro considérait ce texte comme une création féministe visant à justifier l'idéologie gay. Aujourd'hui, il persiste. La partie idéologique de la Convention d'Istanbul peut amener, je cite, à des changements moraux et culturels profonds. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2015, le parti PiS de Jarosław Kaczyński est en guerre contre l'apprentissage de la théorie du genre à l'école ou toute forme de légalisation des relations entre personnes LGBT. Vendredi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre le retrait du traité à l'appel d'organisations féministes. Ces dernières dénoncent une légalisation des violences domestiques. À Varsovie, Damien Simonard pour France Inter.
Prenons maintenant un peu de hauteur au sens propre du terme. À Isola 2000, dans la station d'hiver des Alpes-Maritimes, où s'entraîne en ce moment l'équipe de cyclisme Arkea Samsic. Elle avait frappé fort en recrutant le Colombien Nairo Quintana, arrivé troisième sur le podium du Tour de France ces dernières années. Encore faut-il qu'il s'intègre parfaitement à l'équipe bretonne. Antoine Martin a suivi l'équipe en altitude.
Col, altitude et tranquillité, conditions idéales de préparation pour Warren Barguil et son équipe Arkea Samsic. Le coureur de 28 ans retrouve ses repères avant la reprise officielle.
On a l'habitude de venir ici, donc on a nos repères, on a les montées qu'on connaît très bien. Donc pour se tester, c'est le top. On est vraiment à disposition des plus gros cols de France.
Passage par les cols de Turigny et de la Colmienne à plus de 1500 mètres d'altitude. Pour l'heure, l'entraînement est calibré pour s'acclimater sans brûler d'étapes. l'entraîneur de l'équipe bretonne, Théo Ouvrard.
Déjà le fait de dormir en altitude, ça aide énormément pour la préparation, grâce aux globules rouges qui sont produits, on va dire, la nuit en quelque sorte. On travaille en dormant ici. Ça, c'est le premier objectif. Et le second objectif, c'est pour les grimpeurs comme Warren notamment, d'aller travailler dans des cols très longs.
Dixième du dernier Tour de France derrière son nouveau coéquipier Nairo Quintana, le grimpeur tricolore s'est préparé avec ses moyens. Il aura pour mission de servir le Colombien dans les étapes de montagne.
Je pense qu'on peut jouer le podium cette année, mettre Nairo sur la plus haute marche du podium. Je pense que c'est l'objectif principal.
Si son leader se remet bien d'un accident d'entraînement en Colombie, Warren Barguil retrouve son dossard pour la route d'Occitanie le 1er août. Puis il participera pour la première fois à la classique Milan-San Remo, avant le traditionnel critérium du Dauphiné, deux semaines, avant le début du Tour de France.
C'était Antoine Martin avec Marion Chantreau de France Bleu Azur.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et si vous le pouvez, attendez la fin de journée pour une sortie vélo aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Une fin d'après-midi souvent très ensoleillée sur l'ensemble du pays, mais d'ici là, le temps sera encore assez variable du nord de la Loire au nord de la Seine et sur le Poitou-Charentes, parfois encore bien gris dans le quart nord-est, et comme ce matin, plutôt très dégagé du sud-ouest à la vallée du Rhône et des Alpes à la Corse. Les températures un peu frêles, avec une moyenne de 20 degrés sur le Finistère et près de la Manche, où le vent de sud-ouest sera sensible, atteindront un maximum de 33 à 35 autour de la Méditerranée, 29 à 31 en Rhône-Alpes, dans le sud-ouest et sur la Corse, 25 à 28 sur les régions centrales et 23 degrés à Rennes, Nantes et Lille. Demain et avant de baisser mardi, les températures vont faire un bond en avant avec de fortes chaleurs dans la moitié sud vers 36-39 degrés près du Rhône et de la Garonne, 30 à 35 sur le Poitou-Charentes, du centre Val-de-Loire à l'Alsace sur la Champagne, la Franche-Comté, la région parisienne et 23-27 plus près de la Manche, avec beaucoup de soleil dans l'ensemble, sauf dans l'extrême nord et sur la pointe ouest où le ciel sera plus nébuleux.